La Tanière est un de ces riants villages qui dominent les modestes hauteurs du Morvan, tout au sud, presque à l'extérieur du parc naturel régional. 237 habitants s'y comptent presque sur les doigts de la main. On se réjouit d'y trouver encore une école, un café associatif, une épicerie hélas à vendre et une auberge avec un menu du jour à 14 euros. L'église est ouverte en été avec, j'imagine, un prêtre intermittent de la messe et au fond un cimetière pour finir paisiblement avec une jolie vue sur la campagne. Autour du village, plusieurs châteaux, manoirs ou demeures cossues sont occupés avec aisance par ceux qui possèdent la terre et la louent à des paysans en fermage. Ici, on élève la charolaise, mais on ne se mélange guère entre métayers, propriétaires à particules potentielles, jeunes festifs et parfois végétariens et clients de l'auberge. C'est un village comme tous les microcosmes, avec de gentilles rancœurs et de vieilles rumeurs, des bruits qui se diffusent à la vitesse du vent, des événements qui retentissent pendant longtemps et des vieux qui se souviennent de tout. Notre productrice Léa Minot y a passé une dizaine de jours et a tout écouté et gardé pour vous trois histoires. Minuscule et capitale, particulière et universelle. Elles sont racontées par Marc, Martine et Jeanne, un chasseur sachant pleurer, une épicière championne de catch et une jeune fille devenue mère trop tôt. Tout de suite, ce sont les Morvandiaux, trois histoires dans un village, les pieds sur terre, c'est parti.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
On avait des champignons qu'on a ramassés hier. Ouais. On a mangé du chevreuil que j'avais fait en sauce.
Un chevreuil que vous avez chassé?
Ah ben, chasse, oui, mais chasse, oui. Du chevreuil, on a mangé quoi? Le fromage, des fruits.
Et alors, la chasse, elle a commencé, là, en ce
moment? Bah oui.
Ça a commencé depuis quand, la chasse?
Le 15 septembre, si. Oui, j'ai déjà tué un chevreuil depuis 5 faisans. Ça fait 64 ans que je chasse. J'ai loupé 2 années pendant que j'étais à l'armée, quoi, c'est tout. La chasse, c'est d'avoir une belle équipe de chiens qui font la chanson et qui chassent, quoi. Ils démarrent en vous prévenant que ça sent bon. Et puis au bout d'un moment, le chien, il part et puis il lève le gibier. C'est beau, une belle menée. C'est une chanson, disons, pour les chiens. J'aime la nature, les bêtes, moi. C'est pas... Je vais à la chasse, c'est pas spécialement pour tuer, c'est pour voir les bêtes en... comme ça, en liberté, quoi.
Alors, ça remonte à quand, l'histoire?
Mon histoire, là, ben, les années 90, quoi. Je suis né en 39. J'avais une cinquantaine d'années. À cette époque-là, je marchais encore bien. Les chiens ont levé une mère sanglier qui avait des petits qui étaient dans un tas de broussailles. Je suis arrivé que les chiens, ils en avaient attrapé un pour le tuer, un tout petit, oui. J'ai vite couru pour le libérer, quoi. Le sentiment de protection, comme il était déjà tout blessé, il avait mordu un peu. Alors, il fallait le soigner, quoi. Je voulais pas tuer une petite bête comme ça. Puisque la mère s'était taillée, elle a dit on a emmené quelques-uns, mais il y en a un qui était resté. Alors je l'ai ramassé sous mon bras et puis je l'ai ramené en faisant vachement gaffe parce que la mère, elle est capable de vous revenir dessus et puis de vous sauter dessus. Hein. Je l'ai récupéré pour pas que les chiens le tuent. Et puis le soir, je l'ai ramené à la maison. Puis ma femme, qui travaillait à la maternité, a été chercher des biberons, du lait et puis on l'a soigné. Il fallait qu'il tète, quoi. Il fallait qu'il ait du lait. Je lui ai acheté de la farine de maïs, elle mangeait des os de pain, mais après la mère c'était nous. Et puis elle est poussée comme un champignon. Elle grandit à vue d'œil, quoi, elle était bien soignée. Alors. Il dormait le sous-sol avec les chiens. Avec les chiens qu'il chassait, ils ont compris qu'il ne fallait pas le toucher. Ils jouaient avec, après, les chiens de chasse, ils jouaient avec le petit sanglier, avec mon petit-fils, le plus âgé. Ils s'amusaient dans la cour, les chiens, le petit-fils, le sanglier. J'ai fait une petite cabane sous l'escalier de la maison là-bas. J'ai tout grillagé le tout, comme ça. Et puis elle était en liberté avec une petite baraque pour dormir la nuit.
Et comment vous l'aviez appelée ?
Juliette.
Pourquoi ça, elle s'appelait Juliette ?
Je sais pas. Voilà. C'était ça un nom qui nous est venu comme ça. Juliette. C'est des tellement bons souvenirs que c'est difficile, quoi. C'était l'époque où on était plus jeune, où on avait très souvent les petits-enfants, et on jouait tous ensemble, quoi. Voilà.
Elle était comment avec vous ?
Ben, moi, il n'y a aucun problème. Je l'ai gardée sous le ventre, elle se couchait par terre, elle était heureuse comme un pape. C'est comme ça, hein. Mais je voulais voir que nous, que la famille, que les gamins qu'elle connaissait, mais les enfants du village, ils savaient que j'avais un sanglier, ils voulaient le voir. Elle sautait dans le grillage pour essayer de les attraper. Hein. C'était un vrai garde. Hein. Elle était gardien plus qu'un chien. J'ai dit un jour, elle va en tuer un, parce que c'est méchant, ça. Hein. Il y a des dents qui sont longues comme ça qui sortent. Hein. C'est le chope. Hein. J'avais pas le droit de la relâcher parce que normalement c'est classé nuisible. Alors je lui ai dit quoi faire. Un beau jour elle faisait 80 kilos. Hein. Elle était venue grosse. Je lui ai dit un jour elle va nous blesser un gamin ou tuer. Ou... Alors on a pris la décision avec mon gendre de la supprimer quoi. On l'a supprimée gentiment sans qu'elle s'en aperçoive. Moi, je l'ai tué à la maison d'une balle en pleine tête. Elle n'a pas souffert, hein, heureusement, mais enfin, ça nous a rendus tous malades à un moment, quoi. Mais enfin, il fallait le faire, quoi, c'est tout. Voilà. Puis après, on l'a mis dans la voiture, et puis on l'a emmené au bois avec nous, puis on a chassé tout le matin. Et on n'avait rien trouvé à la chasse. Et puis c'est à midi qu'on a donné des coups de fusée en l'air. Pour faire croire qu'on tirait sur quelque chose, c'était du vent, quoi. Et puis alors, on est parti au café du pays à côté, où les gars étaient en train de boire des coups. Et puis on leur a dit qu'on avait tué un sanglier, et ils ne voulaient pas le croire. On dit, ben si, tiens, il est dans la voiture, là, vous pouvez regarder. Alors, ils ont tellement eu envie de chercher les autres sangliers qu'ils sont partis sans manger, je pense. C'était une blague, quoi, pour les faire enrager un petit peu. Mais après, on l'a dépecé, mais ma femme n'a jamais voulu que j'en ramène à la maison. Je l'ai tout donné aux copains, à droite, à gauche, comme ça. On n'a jamais mangé un morceau chez nous. Voilà.
Parce que moi, je suis taillé les vendredis à midi et demi.
Le nombre de gens qui me disaient oh, « Je me rappelle avec mon grand-père, et ben le vendredi soir, on se mettait devant la télévision. Ma grand-mère n'avait rien le droit de dire et on regardait le catch. »
C'est tout ? Si vous pouvez noter, ouais, c'est oui. Parfait. Tu passeras le concours d'Orangina, c'est 19h, c'est ça ?
Oui.
C'est ça, hein. Sinon demain, sinon ça sera demain, il lui en reste un.
Ce soir, j'ai une formation défibrillateur.
Ça sera demain.
Donc je ferme à 18h15.
C'était quoi votre nom de catcheuse ?
Alors, à l'époque, c'était mon véritable nom. Je m'appelais Martine Métro. J'avais pas de pseudonyme parce que quand je luttais à l'étranger, je trouvais que Martine Métro, ça faisait très français. Après 85, comme le catch américain commençait à arriver, là par contre, il a fallu que j'américanise mon nom pour attirer le public. Et donc là, à ce moment-là, c'est devenu Shirley Nolan. Alors au départ, j'avais pas spécialement envie de faire du catch. À l'époque, je travaillais avec un orchestre qui faisait les balles. Et donc cet orchestre a été sélectionné pour faire la tournée Ricard. C'était un chapiteau qui changeait de plage tous les jours. Et puis, il y avait un ring avec deux équipes de catcheurs, l'équipe Ricard et puis une autre équipe. Et donc, il y avait la femme d'un des catcheurs qui était là aussi, parce que on vivait en caravane, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on a sympathisé. Et puis, elle avait une petite fille d'un an et elle était catcheuse et elle voulait reprendre le catch, mais elle avait personne pour s'entraîner à part les hommes. Et donc, en discutant comme ça, elle me dit, bah, tu voudrais pas reprendre le sport? Bah, j'ai dit, si, justement, j'aimerais bien. Elle dit, bah, si tu veux, viens t'entraîner avec moi quand on rentre, parce qu'elle habitait en banlieue parisienne comme moi. Et bien, c'est comme ça que j'ai commencé. En septembre 78, j'ai commencé d'abord à aller m'entraîner. Et après, j'ai commencé à monter sur le ring devant du public, l'année d'après, en 79. Enfin, au bout d'un an, quoi. Moi, j'avais 21 ans. Donc je suis arrivé, c'était dans un vieil immeuble parisien, au premier étage, où il y avait rien à part le ring au milieu d'une pièce, et de l'autre côté, un banc de muscu, mais pas les bancs sophistiqués de maintenant. Il y avait trois espaliers, il y avait deux bars, enfin bref. Et donc quand je suis arrivé, on devait être à peu près une dizaine à démarrer le catch, mais que des gars, et qui étaient bien évidemment anti-femmes, parce que c'était pas un métier de femme. Les matchs de catch féminin étaient interdits à la télévision. Déjà, parce que c'était la loi, c'était considéré comme indécent. On n'était pas nombreuses, on était une quinzaine à faire du catch, les femmes. Mais on n'était pas des bimbos à forte poitrine comme elles sont maintenant. On était des femmes tout à fait normales. Il y en a une qui était soignante, il y en avait une autre, elle était secrétaire. Moi, je travaillais en crèche. Enfin, je sortais de la crèche, je montais dans le métro, j'allais m'entraîner. Donc ça, deux fois par semaine, quoi. Puis moi, ça me défoulait, quoi. J'étais bien. Après 8 heures avec les enfants... à pas parler fort, voilà. Après, ben voilà, je me défoulais un bon coup sur le ring et puis ça allait bien. Donc il s'est passé 5 ans avant que je parte au Liban. C'était en 84. Il y avait donc deux frères libanais, les frères Mansour, qui étaient catcheurs. Et ils se sont dit, ben on va faire des galas de catch à Beyrouth. Ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient en guerre et ça a duré encore quelques années après. Ils se sont dit, ben peut-être ça va divertir les gens de voir les autres se taper dessus, quoi. Ils nous ont fait venir, on était quand même une quinzaine de catcheurs, ils nous ont payé l'avion, l'hôtel. 24 heures avant qu'on arrive, ils avaient rouvert l'aéroport. Une fois qu'on est descendu de l'avion, on a attendu 3 heures dans le hall. Et on regardait le tarmac où il y avait deux pistes qui avaient été réouvertes et tout le reste c'était des nids de poules parce qu'il y avait eu des attaques à l'obus quelques temps avant. Donc puis on s'est dit que si les frères Mansour nous avaient fait venir, c'est qu'il n'y avait pas de risque. C'était dans un stade ouvert. Pour moi à l'époque c'était immense puisque sur les gradins il y avait on nous a dit qu'il y avait 10 000 personnes quoi. On commençait par rentrer, faire une parade. Tous les catcheurs défilaient autour du ring, on montait sur le ring tous ensemble, avec chacun avec nos drapeaux, parce qu'il y avait il y avait un Arménien, il y avait un Anglais, il y avait qu'est-ce qu'il y avait encore, un Israélien, il y avait quelques Français, donc on faisait ce qu'on appelait une parade, donc c'est-à-dire qu'on tournait dans le stade pour se présenter, on montait sur le ring, le présentateur nous désignait par nos noms, on saluait machin, tout le monde repartait dans les vestiaires et après les combats commençaient. Donc c'était le troisième combat, donc on était dans les vestiaires, on allait prendre nos douches, se changer en attendant qu'on nous ramène à l'hôtel. Et puis c'était le 14 juillet, et là on entend des pétards. On dit, ouais, c'est cool, à Beyrouth ils font aussi le 14 juillet. Et donc du coup on se met à la fenêtre du vestiaire, et là on voit des gens courir. Et les femmes, les enfants, mais on se dit, mais ils courent où? Parce qu'au bout il y avait un mur qui devait faire, 4-5 mètres de haut. On voit les gens arriver au mur, qui grimpent à main nue sur les pierres. Il y a les pères qui montent, qui se mettent à califourchon, qui attrapent leurs gosses, qui les font passer de l'autre côté. On se dit, scène de panique complète. Et là, on comprend, parce que ça tire de plus en plus, mais qu'on comprend que c'est pas des pétards, mais qu'en réalité, il y a quelqu'un qui tire, quoi. Que ça tire à balles réelles. Entre-temps... Les catcheurs qu'on avait fait planquer sous le ring pendant que ça tirait, on les fait rapatrier dans les vestiaires. Et ils sont donc accompagnés des frères Mansour qui sont là avec leurs femmes et leurs enfants. Des petites filles qui avaient 7-8 ans. Ouais. Et là, on est tous là et on attend. Et là, on en a un de nos catcheurs là, qui pète un câble et il s'assoit, il se met à pleurer. On va mourir, je verrai plus ma femme et mes gosses. Alors les autres disent, tiens, terre, on va pas mourir. Et à côté de moi, assise sur une chaise, il y avait les deux petites filles des frères Mansour qui étaient là et qui jouaient à la poupée, comme si de rien n'était. Et voilà, elles étaient là, elles jouaient. Ah, mais est-ce que t'as mangé? Oui, attends, je vais te donner à manger. Oh, elle est jolie ta robe. Ça faisait partie de leur vie quotidienne. Et là, tu te dis, attends, regarde. D'ailleurs, ce qu'on lui a dit au gars. On dit, non, mais regarde les petites, là. Elles sont là, elles ont pas peur, elles pleurent pas, elles demandent pas leur mère. Et toi, t'es là et c'est vrai que c'était un truc assez, disons, assez poignant. Mais moi, perso, je me suis jamais senti en danger à aucun moment. Et apparemment, ça marchait très bien, parce qu'on a même été retransmis à la télévision. Quand ils nous ont emmenés visiter des endroits, et les gens s'arrêtaient. Non, on vous a vu à la télé, vous pouvez nous signer un autographe. Chose qui nous arrivait jamais en France. Hein. C'était dangereux, mais il m'est rien arrivé, quoi. Je veux dire, je suis revenu tranquillement, je suis rentré à la maison, j'ai embrassé mes enfants, et ma vie a continué, quoi. Donc, effectivement, non, je regrette pas. Hein.
Vous avez gagné les combats?
Franchement, je m'en rappelle plus.
Aujourd'hui, vous tenez l'épicerie à la tanière.
Ouais.
Qu'est-ce qui sait que vous étiez catcheuse?
Mais je pense que la moitié de la population ne le sait pas. Mais à chaque fois qu'on va quelque part, par exemple, notre mère se charge de dire « Mais vous savez, elle est catcheuse. » Enfin, elle était. Et puis ceux qui ne me connaissent pas, et l'autre jour, c'est ce qui s'est passé. J'ai un client qui est venu avec un copain à lui. Et là, le client, il dit « Ouais, bah tu sais, la Martine... pas la faire chier, hein, parce qu'elle était catcheuse. Hein. Et puis voilà, il lui raconte ma life, alors que le gars, c'est la première fois de ma vie que je le vois, quoi. Parce que bon, c'est vrai que c'est... disons que les gens aiment bien raconter, parce que c'est assez rare, on croise pas souvent une catcheuse dans sa vie, quoi, même un catcheur. Surtout à l'épicerie de la tanière. C'est vrai.
Je m'appelle Jeanne Odette et Jeanne Odette Lucchini. Et pendant toute ma vie professionnelle, quand j'étais à l'école d'infirmière, il fallait s'appeler par notre nom de famille. Alors Lucchini, c'est devenu Lucky. Et pendant toute ma carrière professionnelle, ça a été Lucky.
Et vous avez quel âge?
Ouh là là, faut que je dise mon âge.
Vous n'êtes pas obligée.
Non, j'ai 87 ans. Ma mère s'est mariée à 18 ans. Moi, je ne me suis pas mariée, mais j'ai eu ma fille à 18 ans. Donc, c'était en 1950.
Vous étiez avec le père de votre fille?
Non, on se fréquentait, on dansait ensemble, au bal. C'était les lieux de rencontre. À ce moment-là, vous savez, il y avait les bals publics. Il avait quelques années de plus, quand même pas beaucoup. Il me faisait des tas de promesses, et puis un beau jour, il s'est coupé, si l'on peut dire, quoi. Il a dit « ma femme ». Alors qu'il disait toujours ma mère. Et alors, bon, il avait pris un air gêné. À partir de là, bon, moi, je me suis renseignée, j'ai écrit à la mairie et j'ai su qu'il était déjà marié. Dans les familles, on nous disait, si tu m'en amènes un, il faut que ce soit le bon. Et mon père, qui était assez intransigeant, assez violent, je ne lui ai jamais présenté. J'étais enceinte de 5 mois, ça se voyait absolument pas. J'étais bien plus mince, j'étais très très mince, et ça se voyait pas. Mais quand mon père l'a appris, parce que mes parents étaient divorcés, et j'étais chez mon père, je faisais la causette, comme on dit, la boniche, je faisais le ménage, je faisais tout. Ma mère s'était remariée, mais mon père non. Et quand il l'a su, il m'a fichu dehors. Il m'a dit, fais ce que tu veux, fiche-toi au Rhône, mais va-t'en. Je suis partie de chez moi et je suis restée 3 ans sans y revenir. Oh ben on était bien sûr un peu montré du doigt parce que on était toujours un petit peu considérés comme des filles faciles. Quoi. Vous savez, autrefois, il fallait se marier vierge et tout ça. Quoi. Je crois que ça a toujours existé. Les filles mères, comme on disait. Maintenant, la mère célibataire, c'est vrai, on n'en tient plus compte. Quoi. J'avais déjà essayé de prévenir ma tante à Lyon. Et puis, ma tante à Lyon, elle m'a dit, je ne peux vraiment pas te garder. Elle a fait un mot à ma grand-mère, qui était aussi ma marraine et qui habitait Bourg. Et bon, ma grand-mère, elle m'a vu arriver avec mon baluchon. Puis elle m'a dit, oh, c'est pas toi qui as ouvert le livre, c'est pas toi qui vas le fermer. Et je suis restée quelque temps chez ma grand-mère. Moi, j'ai trouvé un petit travail quoi, en attendant, parce que j'avais pas de sécu, j'avais rien. Après, j'ai accouché. Je suis allée travailler à la sous-préfecture de Gex. Et je suis revenue pour accoucher à la maternité de Bourg. Je suis restée 6 mois, parce qu'il y avait ce qu'on appelait la maison des mères. Et il y avait des filles dans mon cas. Et il y avait tout un étage, enfin c'était le rez-de-chaussée, où il y avait des personnes dans mon cas. Alors je suis restée avec ma fille pendant 6 mois. Puis au bout des 6 mois, on m'a trouvé un travail et on a placé ma fille en nourrice. Il fallait bien, parce que je ne pouvais pas rester garder ma fille. J'avais pas de logement, j'avais rien. Et puis moi, il fallait que je travaille. Je suis allée travailler chez le sous-préfet de Gex. Mais je faisais le ménage, quoi. Et ma fille était en pension. Mais j'avais quand même l'occasion de la voir de temps en temps. Je ne pouvais pas faire autrement. Puis on me guidait, quoi, bien sûr. Je n'étais pas tellement maîtresse de mes actes, quoi. Je l'ai récupérée par la suite, quoi.
Votre père, vous l'avez revu après, quand elle était née, votre fille ?
Oh oui, 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 je l'ai revu. Il a très, très bien accueilli ma fille. Et il les a même emmenés avec ma nièce. Il les a emmenés toutes les deux en Italie. Il était content comme tout.
Vous l'avez élevée seule, votre fille ?
Pratiquement, oui. Mais avec beaucoup de difficultés, parce que comme j'étais obligée de travailler... Elle était toujours en pension, en nourrice et tout ça, quoi. Bon. Quand j'ai pu la prendre avec moi, je l'ai fait. Mais c'était à Lyon. Je faisais des nuits à l'hôpital parce que c'était beaucoup mieux payé que la journée. Et elle dormait toute seule dans le logement et elle avait peur, elle pleurait. Et le matin, si j'avais 5 minutes de retard, elle avait le réveil dans les mains et elle m'attendait en pleurant. Mais elle a gardé une certaine rancune de tout ça parce que elle a pensé que je l'abandonnais, que je m'occupais pas d'elle. Mais je pouvais pas travailler et m'occuper d'elle.
Est-ce qu'elle a déjà vu son père ?
Non. Non. Je lui en ai parlé, mais vous savez, quand je suis restée à la maison maternelle à Bourg, il y avait la directrice qui m'a dit « Vous avez qu'à dire qu'il est mort ». Et j'aurais jamais dû dire ça. Je lui ai dit qu'il était mort. Et elle a cherché son père au cimetière. Oui, oui. Comme je n'en parlais pas, elle a pensé qu'elle allait trouver quelque chose. Elle n'a rien trouvé parce qu'il n'était pas mort.
Vous lui avez dit après qu'il n'était pas mort ?
On n'en a plus beaucoup parlé. Bon, maintenant, oui, ça ne me gênerait pas. Je lui dirais... J'ai beaucoup plus la vérité que lorsqu'elle était plus jeune.
Vous avez eu d'autres histoires d'amour après ?
Ah, je ne vais pas vous raconter.
Non, mais
si, 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 bien sûr que oui, oh, oui, bien sûr. Mais jamais, jamais bien sérieuse, non. Mais j'en avais ras-le-bol des bonshommes. Ils sont pas sérieux.
Copa levere cadore se ne scena ne color e cammina vi chiariella sotto luna. Quante volte sei fermata per parlare con qualcuno e non ci sta mai nessuno che se ferma può sentire.
C'était Les Morvans du Haut, trois histoires dans un village, un reportage de Léa Minot réalisé par Cécile Lafon. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Aurélie Marseille. Merci à Martine, à Marc et à Janine, à Fafou, à Guy, à Jeanne, ainsi qu'à Yannick et Marie Boutière, ainsi qu'évidemment à tous les habitants de la Tanière qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes si généreusement.
Guardano mare, penso a Maria, come non c'è sta più. So solo tre anni e ci penso. Tutte sere passa tempo e non mi pare vero. E cammina, cammina vicino por. E chi anni anna aspetta amor. Sotto la luna non parla nessuno, sotto la luna nessuno vuole sentire.